Et nous allons maintenant entendre plusieurs textes bibliques en lien avec la prédication.
Alors, Exode 33, à partir du verset 18, « Pour placer le cadre, le peuple est dans le désert. Moïse a brisé les premières tables de la loi, a détruit le veau d'or et a dressé la tente hors du camp où il s'adresse à Dieu comme à un ami. Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant ta face toute ma bonté. » Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et j'ai compassion de qui j'ai compassion. » Et une seconde lecture, toujours dans le livre de l'Exode, au chapitre 34, à partir du verset 6. L'Éternel passa devant lui en proclamant, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu compatissant et qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité, qui conserve sa bienveillance jusqu'à 1000 générations, qui pardonne la faute, le crime et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent, et qui punit la faute des pères sur les fils et les petits-fils jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. » Et une troisième lecture dans l'épître de Paul à Tite, chapitre 3, au verset 4. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre miséricorde, par le bain de la régénération et le renouveau du Saint-Esprit. Il l'a répandu sur nous avec abondance, par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Cette parole est certaine, et je veux que tu insistes là-dessus, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à exceller dans les œuvres bonnes. Voilà qui est beau et utile aux hommes. Et encore une lecture dans l'épître de Paul à Tite, au chapitre 2, verset 11. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au désir de ce monde, et à vivre dans le siècle présent d'une manière sensée, juste et pieuse, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, le Christ Jésus. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les œuvres bonnes. Et une dernière lecture dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 2 et au verset 8. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie.
Lorsque quelqu'un est condamné à mort avec raison, c'est uniquement la grâce qui peut annuler la peine de juste jugement. Uniquement la grâce. Et c'est à ce même genre de grâce que nous faisons appel pour que Dieu nous éclaire par son esprit. Parce que personne ici, nous ne méritons en fait son œuvre. Donc nous disons, par ta grâce, nous ne le méritons pas, c'est vrai, mais nous te le demandons que nos cœurs soient touchés ce matin par ton œuvre. Dans cette année qui marque le 500e de la Réforme, nous sommes heureux d'y faire référence pour nous aider à revenir au fondement du salut. Le salut, c'est le centre des cinq vérités remises en valeur lors de la réforme que l'on appelle les solas. Donc nous avions vu ensemble déjà un premier qui s'appelait le sola scriptura, l'écriture seule, qui indique la seule référence fiable, le seul fondement, la seule autorité en matière d'explication du salut. C'est l'Écriture, la Bible. C'est ce que nous avions vu le dernier dimanche du mois de janvier. Deuxième, c'est le sola, la sola fide, la foi seule, ou justifiée par la foi seule, qui indiquait le moyen pour saisir le salut, qui est par la foi seule que nous le saisissons. Aucune œuvre n'y contribue, mais elles en découlent. C'est ce que nous avions développé le dernier dimanche de février. Il y a ensuite la sola gratia, qui indique le moyen utilisé par Dieu pour accorder le salut. C'est par la grâce seule, et c'est ce qui va nous occuper aujourd'hui. Il y a bien sûr encore ensuite le Solus Christus, hein, indique l'auteur et le seul médiateur du salut, Jésus-Christ, Dieu devenu homme. Et donc le dernier, Soli Deo Gloria, qui indique en fait le but, la raison du salut. C'est pour la gloire de Dieu que le salut a été manifesté. Tout est centré sur lui. Et comme je vous l'ai déjà dit, j'aime le répéter, hein, si quelqu'un cherche le centre de l'univers, c'est ni la terre, ni le soleil, c'est Dieu. C'est Dieu le centre de l'univers. Alors aujourd'hui, sola gratia, sauvé par la grâce seule. On pourrait dire que la grâce, c'est le mot-clé du christianisme. La grâce, c'est le mot-clé du christianisme. Si vous enlevez la grâce, il n'y a plus de bonnes nouvelles, plus d'évangile. En fait, toutes les religions inventées par les hommes enseignent le salut par les œuvres. Vous pouvez vérifier, toutes les religions inventées par les hommes sont en fait dirigées par les œuvres pour accéder au salut. C'est l'homme qui essaye de s'approcher de Dieu. Le christianisme biblique a pour message fondamental la rémission gratuite des péchés par la foi en Jésus-Christ. La grâce, en fait. Ce n'est plus l'homme qui va s'approcher de Dieu, c'est Dieu qui s'est approché de l'homme. Encore faut-il comprendre ce que signifie ce terme grâce et comment Dieu le pratique. Eh bien, c'est ce que nous allons aborder ce matin. Et je prie que cette prédication soit puissamment utilisé par Dieu pour toucher nos cœurs, pour nous remplir de joie, de paix, de reconnaissance, d'humilité et d'adoration. Waouh, c'est l'objectif. Eh bien, prions que Dieu agisse dans nos cœurs pour que nous parvenions à cela. Et c'est à trois questions que nous allons répondre ce matin. C'est très simple, hein, je ne cherche pas à faire compliqué. Donc, la première question, ben, la grâce, c'est quoi? Ce sera la première question. Deuxièmement, pourquoi la grâce seule? Et comme dernière question, comment vivre dans cette grâce? Voilà les trois éléments que nous allons aborder ce matin. Donc la première chose, c'est quoi? La grâce, c'est quoi? Eh bien, je vais déjà vous donner une définition, ensuite on développera. La grâce, dans le contexte du salut, c'est un don gratuit, immérité, reçu par un supérieur qui n'est pas obligé de le donner. Donc, la grâce, dans le contexte du salut, hein, c'est un don gratuit, immérité, reçu par un supérieur qui n'est pas obligé de la donner. C'est un cadeau, un bienfait, un présent qui manifeste la générosité du donneur. Alors, c'est vrai que le mot « grâce » est très riche, on peut l'utiliser dans différents contextes. Hein. Si on dit que quelqu'un est plein de grâce ou gracieux, eh bien, c'est qu'il a, par exemple, des gestes, des manières charmantes, agréables, ou qu'il parle avec aisance, ou bien une action de grâce. C'est reconnaître un bienfait en l'exprimant, ou bien plus simplement, c'est dire merci. L'action de grâce, être reconnaissant. Ou si quelqu'un fait quelque chose de bonne grâce, eh bien, c'est qu'il le fait volontiers, bénévolement, avec amabilité. Encore, lorsque quelqu'un a reçu une grâce particulière, c'est qu'il a reçu un charisme, un don particulier. Oui, c'est large, hein, l'utilisation de la grâce. Mais ce matin, j'aimerais que nous parlions de la grâce. Que nous saisissions tout particulièrement la grâce dans le contexte du salut, la grâce de Dieu. Ce don gratuit, immérité, reçu de Dieu, qui n'est pas obligé de la donner. Et il n'est pas possible de faire quelque chose pour créer cette grâce. Sinon, cela deviendrait un dû, une conséquence d'une œuvre. Packer dit ceci, je trouve intéressant, le mot grâce exprime le processus par lequel Dieu, dans un élan spontané de bonté, sauve le pécheur. On avait vu la dernière fois, la foi c'est du côté de l'homme hein, qui va saisir le salut, la grâce est du côté de Dieu qui accorde le salut. D'autres disent encore que la grâce est une faveur totalement gratuite et librement accordée par un Dieu souverain. Puis là, j'ai pris le dictionnaire. J'aime bien des fois prendre le dictionnaire, enfin, j'utilise le Robert, mais enfin, après, vous avez vos préférences. Et il nous dit dans la définition théologique de la grâce ceci. La grâce, C'est l'aide surnaturelle qui rend l'homme capable d'accomplir la volonté de Dieu et de parvenir au salut. Je le redis, comme ça je vais pouvoir en parler. Donc, c'est l'aide surnaturelle qui rend l'homme capable d'accomplir la volonté de Dieu et de parvenir au salut. Ça, c'est la définition qu'on trouve dans le Robert, définition théologique. Mais je soupçonne ce dictionnaire d'être influencé par la pensée que c'est l'homme qui doit parvenir au salut. Et il lui faut simplement un coup de main de Dieu pour y arriver. Donc la grâce, c'est rendre l'homme capable d'y arriver. Si on illustre un petit peu cela, c'est comme face à un ravin que l'on devrait enjamber, disons 10 mètres, parce que personne ici ne saute 10 mètres à ma connaissance de longueur. Eh bien, pour y arriver, il faudrait juste que Dieu donne une petite potion, là, qu'on la prenne, puis hop, on y arrive. Hein, c'est une aide pour y arriver. Mais la Bible enseigne que la grâce, c'est totalement l'œuvre, le travail, l'accomplissement de Dieu, uniquement à qui revient entièrement et complètement le mérite. Ce n'est pas une aide, la grâce. Mon salut, selon la parole de Dieu, et vous pouvez lire toute l'épître aux Romains, parce que comme ça vous avez un peu un contexte, hein, vous pouvez le lire, eh bien ce n'est pas que Dieu m'a rendu capable d'accomplir sa volonté pour parvenir au salut. C'est pas ça le salut, c'est pas ça la grâce de Dieu. C'est que Jésus a parfaitement accompli la volonté de Dieu, et c'est Jésus-Christ qui a pris le châtiment qui m'était réservé. C'est ainsi que la grâce n'est pas une aide, mais un don. La grâce n'est pas une aide, mais un don, un cadeau extraordinaire d'un salut totalement accompli dans lequel je peux entrer par la foi. Donc la grâce n'est pas une aide, mais un don, un cadeau extraordinaire d'un salut totalement accompli dans lequel je peux entrer par la foi. Si on reprend l'exemple du ravin qu'on doit passer, là, les 10 mètres, eh bien on pourrait dire que Dieu ne me donne pas une potion pour être capable de sauter. Non, Dieu construit un pont sur lequel je peux marcher. Ou bien Dieu me donne une nacelle avec un ballon à air chaud dans lequel je peux monter pour traverser. C'est ça la grâce de Dieu. La définition de la grâce dans le contexte du salut est donc un don gratuit, immérité, reçu par un supérieur qui n'est pas obligé de le donner. Maintenant que l'on a cherché à saisir cette définition, on va encore explorer un petit peu la cause et l'origine et le coût de cette grâce. Il faut bien comprendre que Dieu ne donne pas sa grâce sans exercer la justice. Dieu est un tout cohérent. Il est parfaitement amour, il est parfaitement saint. Et il ne va pas faire quelque chose contre sa sainteté, comme il ne va pas faire quelque chose contre son amour. Et pour que la justice soit satisfaite et que Dieu puisse pardonner par grâce, il a dû acquérir cette grâce. En fait, la Bible ne laisse aucune place à la notion d'une grâce qui n'appliquerait pas la rançon du péché de l'homme. Dieu ne pardonne pas les péchés en abandonnant sa justice. Ça, c'est un élément important. Ce n'est pas juste « Ok, je te fais grâce. » Puis la justice n'est pas faite. Non, Dieu est juste. Il est donc venu lui-même en Jésus-Christ pour payer la rançon, porter la colère de Dieu, pour subir le jugement de celui à qui il allait accorder la grâce. Ce n'est pas une grâce à bon marché. En fait, le sacrifice de Christ est l'origine et la cause, la raison de la grâce. Si Christ n'était pas venu pour accomplir la justice de Dieu, Dieu ne pourrait pas faire grâce, parce qu'il est juste, parce qu'il est saint. Alors comprenez bien, la grâce est toujours gratuite pour celui qui la reçoit. Sinon, ce n'est pas une grâce. La grâce est toujours gratuite pour celui qui la reçoit. Mais cela ne signifie pas qu'elle est gratuite pour celui qui la donne. Cela ne signifie pas qu'elle est gratuite pour celui qui la donne. En fait, elle a coûté la vie du Fils de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc du côté de Dieu, la grâce a un très grand coût. Dans 1 Corinthiens 6,20, il est dit « Vous avez été rachetés à grand prix ». Ça, c'est du côté de Dieu. Et du côté de l'homme qui le saisit par la foi, la grâce est totalement gratuite. Gratuit. Totalement. Et le moyen que Dieu a mis en place pour saisir ce salut manifeste la gratuité, simplement de croire. Romains 3, 24 le dit clairement. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Dieu qui est juste peut nous donner sa grâce parce qu'il en a payé le prix. Et nous pouvons bénéficier gratuitement de son salut par la foi. Alors j'espère qu'avec ces quelques éléments, on comprend un petit peu mieux ce qu'est la grâce de Dieu. Une grâce totalement gratuite pour nous qui pouvons la saisir par la foi. Une grâce qui a coûté pour Dieu qui la donne. Réfléchissons maintenant à ce terme « seul ». Pourquoi la grâce « seul » ? Alors, pour en parler, nous allons d'abord parler de l'efficacité de la grâce, et ensuite nous allons aborder la grâce sans « et ». Donc « et », sans « et ». Il n'y a pas « grâce et quelque chose ». Donc l'efficacité de la grâce pour commencer. La grâce est efficace. Pourquoi est-ce que la grâce est efficace ? Sinon je venais là, petit micro. Pourquoi est-ce que la grâce de Dieu est efficace ? Peut-être que vous diriez, parce qu'elle repose uniquement et totalement sur celui qui est capable de tenir ses promesses, qui a la puissance de terminer ce qu'il a commencé. C'est-à-dire, elle repose sur Dieu. Cette grâce, ce salut, repose entièrement, totalement sur Dieu. Et il peut faire tout ce qu'il veut. Alors comprenez bien, pas ce que je veux, mais ce qu'il veut. Si un jour Dieu n'a pas fait ce que vous avez demandé, ça ne signifie pas qu'il ne peut pas tout faire. Ça signifie qu'il n'a pas choisi de faire ce que vous lui demandiez, parce qu'il n'est pas soumis, il est souverain. Donc la grâce est efficace parce qu'elle repose sur le Dieu Tout-Puissant, qui fait toutes choses bonnes. Et si la grâce est une corde, si on prend l'illustration de la corde, si la grâce est une corde, ce n'est pas la corde qui a la force, mais celui qui l'attire. Si la grâce est efficace, c'est parce que c'est Dieu qui tire la corde. Donc si la grâce était une corde, ce n'est pas la corde qui a la force en elle-même, évidemment. C'est celui qui l'attire. Et si la grâce est efficace, c'est parce que c'est Dieu qui tire cette grâce ou qui l'effectue. Puis deuxièmement, peut-être que quelqu'un d'autre m'aurait dit, mais en fait, la grâce est efficace parce qu'il a payé le prix complet. Si la grâce est efficace, c'est aussi parce que le prix payé pour notre rachat est complet. Tout a été payé. Il n'y a plus aucune dette. Celui qui croit que Christ est mort à la croix pour ses péchés, il n'a plus de dette. Zéro. Parce qu'il a payé. C'est parce qu'il a payé qu'il peut donner cette grâce, qu'il peut donner ce pardon. Vous connaissez ce verset dans Romains 8.1 que j'aime beaucoup, où je viens souvent sur un petit mot, car il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça, c'est une promesse qu'on peut prendre avec nous. Pourquoi ? Parce que la grâce est efficace. Donc, pourquoi la grâce seule ? Eh bien, parce qu'elle est efficace. Il n'y a rien besoin d'autre. Il n'y a pas besoin qu'on l'augmente, qu'on la modifie ou qu'on la complète. Elle est complète. Et ajouter un seul élément, ce n'est plus la grâce seule, c'est la grâce et. Et cette grâce ne sauve pas, parce qu'elle ne repose plus sur Dieu seul. Vous voyez, la grâce qui repose sur Dieu seul, on peut être sûr, elle nous sauve, parce que c'est lui qui l'a fait. Dès qu'on met « et » quelque chose, eh bien ce quelque chose peut faire que la grâce ne soit plus efficace. Allons voir un petit peu ces « et » que l'on veut écarter. Le premier, c'est la grâce sans mérite de celui qui la reçoit. Personne n'a le moindre mérite de recevoir la grâce, le pardon gratuit de Dieu pour ses péchés. Le mérite, c'est si quelqu'un pouvait revendiquer le droit de recevoir le pardon. Alors ça voudrait dire que quelqu'un serait capable de payer le prix pour son péché. Sinon, il n'y a aucun mérite. Je ne mérite pas quelque chose si je ne suis pas capable de payer le prix. Mais c'est un prix astronomique, les amis. Nos péchés, c'est un prix astronomique. Lisez Matthieu 18. Matthieu 18, bon, il y a toute une partie sur les reprendre notre frère, etc. Ensuite, il y a la notion du pardon. Et là, il y a un roi qui reçoit un serviteur qui lui doit une somme mais énorme. Si vous calculez combien lui doit ce serviteur, il lui doit des millions de jours de travail. Parce que bon, si on prend le salaire à l'époque et aujourd'hui, on aurait de la peine à faire le lien, mais c'est des jours de travail. Donc des millions de jours de travail. Des millions de jours de travail, ça fait combien d'années? Ça fait des milliers d'années. Est-ce que quelqu'un peut vivre des milliers d'années pour payer? Ben non. On ne vit pas des milliers d'années. Donc c'est impossible à payer. C'est exactement la situation dans laquelle nous sommes avec nos péchés. C'est la même situation, on ne peut pas payer. Et le roi, dans Matthieu 18, choisit de ne plus se souvenir de cette dette. En fait, cette histoire nous montre que la dette astronomique, hein, des milliers d'années de travail, est remise. Donc vous n'avez pas à chercher à mériter quoi que ce soit. Ce serait chercher à gagner des centimes illusoires pour rembourser vos millions dus. Comme quelqu'un qui essayait de gagner quelques centimes, qu'il n'arriverait même pas à gagner, pour rembourser une dette de quelques millions. Ne cherchez pas les mérites. Donc si vous péchez, ça vous arrive de pécher, ben, ça m'arrive malheureusement encore beaucoup trop souvent. Si l'on pêche, ne cherchez pas le mérite de votre pardon. Par toutes sortes de contritions, de pénitences, de punitions que vous pourriez vous infliger. Non. Venez à Christ. Demandez pardon par la repentance et la foi, et vous serez pardonnés sans aucun mérite. C'est ça l'évangile. Non mais quand on commence à saisir ça, c'est une nouvelle extraordinaire, il faut qu'on la dise partout. On ne doit pas commencer à mériter cela, à se flageller, enfin comme malheureusement certains le comprennent. Non, c'est pas ça la grâce de Dieu. Lorsque nous péchons, ne cherchons pas à mériter le pardon. Nous n'y arriverons pas. Nous ne ferons que nous éloigner de celui qui peut nous pardonner. Il n'est pas possible non plus qu'un autre pécheur nous donne ses mérites. Déjà, nous, on ne peut pas en avoir, mais alors ce n'est pas possible non plus qu'un autre nous les donne. Ou même qu'une organisation vous donne des mérites. Parce que personne ne peut avoir des mérites en dehors de Christ. Parce qu'en fait, c'est par ses mérites à lui que nous sommes sauvés. C'est par son œuvre à lui qui est parfait. Il n'existe pas un stock de mérites qu'on pourrait recevoir par des sacrements ou quelques autres pénitences. Pas un stock qu'on peut aller se servir. Non, les mérites, c'est Christ qui les a. C'est le seul endroit. Et c'est là que la grâce de Dieu est manifestée. La grâce sans « et », c'est une grâce sans mérite de celui qui la reçoit. Et c'est aussi une grâce sans œuvre de celui qui la reçoit. Hein, donc, la grâce sans mérite, grâce et mérite, ben, faut qu'on l'écarte. Mais grâce et œuvre aussi. Puis là, le texte de Romains 4:4 est parfaitement clair. Car s'il y a une seule œuvre dans cette démarche de salut, cela signifie que c'est un salaire. C'est plus une grâce. Si une œuvre est faite, on doit donner quelque chose en retour. Regardez avec moi dans Romains. Prenez vos Bibles dans Romains 4. On va voir au verset 4. Il faut aller vérifier ce que je raconte dans la Bible, c'est important. C'est la parole de Dieu qui est notre base. Romains 4:4. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est compté, non comme une grâce, mais comme un dû. Dès qu'il y a une œuvre, c'est un salaire, et pas une grâce. Bon, on aime bien les confirmations. Alors allez dans Romains 11, versets 5 et 6, qui va confirmer ceci encore. Romains 11, verset 5, « De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. » Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Aucune œuvre. Aucune œuvre. Aucune. Pas même votre décision de suivre Jésus-Christ. Vous savez, certains disent, Satan a voté contre toi. Dieu a voté pour toi. C'est toi donc qui as le vote décisif. Cela signifierait que le salut dépendrait de ton vote, de ton œuvre, et plus de celle de Dieu. L'Éternel est donc présenté comme un produit à acheter, une décision à prendre, un contrat à conclure. Il ne s'agit pas de sola gratia. La grâce seule, c'est un salut qui repose entièrement et totalement sur Dieu. Entièrement et totalement sur Dieu. Oui, nous nous repentons, c'est vrai. Ça fait partie du salut. Si vous ne repentez pas, vous êtes pas dans ce chemin de salut. Oui, nous avons la foi, c'est vrai, mais ce sont des dons de la grâce de Dieu qui régénèrent pour que nous soyons ressuscités des morts et que nous naissions de nouveau, afin de nous rendre capables de nous repentir et de croire pour saisir le salut qui est accompli par Dieu. Et donc nous ne recevons pas une force pour accomplir quoi que ce soit pour le salut. La seule force que nous recevons pour faire quelque chose, c'est pour le saisir, par la repentance et la foi. Mais alors, comment vivre dans cette grâce? Quelles en sont les conséquences? C'est notre troisième et dernier point. Comment vivre dans cette grâce? Donc la grâce de Dieu est imméritée, elle est efficace, elle ne demande aucune participation de l'homme. Alors est-ce que ça signifie qu'on peut continuer à pécher sans se faire de soucis? De toute façon, il y a la grâce. C'est ce qu'on pourrait conclure, hein, logiquement. Puisque Dieu fait tout. Et en plus, chaque fois qu'il y a un péché, il y a la grâce. Deux péchés, une grâce pour deux péchés. Trois péchés, une grâce pour trois péchés. Donc quelque part, plus on pêche, plus il y a de la grâce. Eh bien, c'est exactement ce à quoi Paul répond dans Romains 6, les versets 1 à 5. Je vous invite à prendre vos Bibles, on est toujours dans Romains, verset 6. Je vous avais dit, hein, vous pouvez lire tout l'épître aux Romains, là je ne vais pas lire toutes les parties, on a juste une ou deux parties. Donc Romains 6, versets 1 à 5, et on aura après un texte qui le confirmera. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? C'est exactement ce que je disais. Hein. Verset 2, certes, non. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous avons été baptisés en Jésus-Christ et c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Pourquoi nous ne péchons pas? Parce que nous sommes unis à Christ. Et nous ne pouvons pas dire que nous péchons et que nous sommes unis à Christ en même temps. C'est antithétique, c'est pas possible. Il est saint. Je vous ai dit que ça, c'est confirmé. Hein. Allez verset 15, un peu plus loin. Hein, vous pourrez lire tout le chapitre à la maison pour le méditer. Verset 15, il a dit, c'est quoi donc? Pécherions-nous parce que nous ne sommes pas sous la loi mais sous la grâce? Hein, puisque la loi ne peut pas nous amener au salut, il n'y a aucune œuvre qui peut le faire. Donc il dit, ok, bah alors on pêche. Mais certes non, ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce à Dieu, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine qui vous a été transmise. La liberté du péché, libéré du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour aboutir à l'iniquité, maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour aboutir à la sanctification. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous avez honte maintenant, car leur fin c'est la mort. Mais maintenant, libéré du péché et esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sanctification et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus, notre Seigneur. Mais maintenant, libéré du péché et esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sanctification et pour fin la vie éternelle. En fait, la grâce de Dieu nous est accordée par un Dieu saint qui vient envahir nos vies. La grâce, c'est pas juste, je te donne quelque chose et je m'en vais. Non. La grâce de Dieu, c'est qu'en fait, il nous pardonne, il nous régénère, il nous transforme et il envahit notre vie. Et c'est la meilleure chose qui peut arriver. Parce que si nous vivons selon Dieu, nous vivons heureux. C'est le bonheur que Dieu donne. Et quand il envahit notre vie, eh bien, il nous dit aussi ceci, et ça c'est dans 1 Pierre 1,16 où il est dit, « Vous serez saints, car je suis saint. » La grâce de Dieu va même parfois exposer ce que nous aimerions cacher. Non pas pour nous faire honte, mais pour nous pardonner, nous délivrer, afin que nous nous détournions du péché. C'est comme ça que la grâce de Dieu agit. Il manifeste, c'est vrai, parfois des choses qu'on n'aimerait pas, mais il ne le fait pas pour nous faire du mal. Il le fait pour nous libérer. Parfois même, il nous manifeste déjà sa grâce pour que nous apprenions à nous en détourner. Si vous donnez 1000 francs à un voleur pour qu'il puisse rembourser ses vols, est-ce que vous vous attendez qu'il s'arrête de voler? Bah, quelle question. Évidemment. Si vous donnez 1000 francs à quelqu'un pour qu'il puisse rembourser ses vols, bah, c'est pour qu'il arrête de voler. Et bien, pourquoi ce serait différent avec Dieu pour nos péchés? La grâce de Dieu appelle la sainteté. N'hésitons pas à mettre toute notre énergie à vivre selon les standards de Dieu, en nous appuyant sur la grâce de Dieu. Nos œuvres de sainteté seront ainsi une manifestation de la grâce de Dieu, et non pas une cause, une conséquence, et non pas l'origine de la grâce de Dieu. Et rappelons-nous que tout ce que Dieu nous demande, c'est toujours pour notre bien ultime. Même si parfois, c'est vrai, on peut passer par un temps de souffrance, mais c'est toujours pour le bien ultime. Dieu est bon. Maintenant que vous avez pris conscience que la sainteté fait partie de la grâce, dans la grâce de Dieu qui est manifestée, la sainteté en fait totalement partie. J'espère que vous êtes en tout cas plus convaincus qu'avant. Mais j'aimerais encore réfléchir à une autre conséquence de la sola gratia, la grâce seule. C'est en fait, après la sainteté de la grâce, l'humilité de la grâce. En fait, comme le salut par grâce est l'entière et totale œuvre de Dieu, il n'y a pas de place pour l'orgueil, il n'y a de la place que pour l'humilité. Il n'y a aucune place pour l'orgueil. Personne ne peut dire ici, « Oh, moi j'ai fait quelque chose pour être sauvé. Je suis quand même mieux que tous ceux qui ne sont pas sauvés. » Et oh, c'est Dieu qui a agi. Qui ici peut dire qu'il est meilleur? Ben, s'il a compris la grâce de Dieu, personne. C'est pas possible. Nous sommes appelés à vivre dans cette humilité. Il n'y a absolument rien que je peux me mettre à mon crédit. On dit, ouais, mais je me suis repenti. C'est vrai, et c'est très bien. Et je suis actif dans cette repentance. Et quand je m'en rends compte, je le fais. Et je vais lire dans la Bible, par exemple dans Actes 11-18, où les chrétiens à Jérusalem l'ont bien compris, lorsqu'il parle de la repentance de Corneille et ses amis, où il a dit, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens. Ah tiens, c'est un don de Dieu, la repentance. Bon, alors attendez, hein. J'attends qu'il me donne le don, puis je vais me repentir. Non, mais attendez. Est-ce qu'un petit enfant, il se dit, j'attends de savoir marcher pour me lever et aller marcher? Bien sûr que non. On y va. Et on se rend compte ensuite que ces capacités, ces dons, viennent de Dieu. Celui qui attend la perfection est un orgueilleux. Parce qu'il veut dire, d'abord, c'est moi qui vais être parfait, puis ensuite je vais faire ce que Dieu me demande. Mais attendez, c'est pas ça que tu me demandes. C'est pas ça la grâce. La foi, de même, la foi que j'exerce en toute conscience et selon ma volonté, est également un don de Dieu. Vous connaissez bien ce texte dans Hébreux 2, verset 3. Jésus est l'auteur de la foi et il l'amène à la perfection. Ou alors je vais attendre que j'aie la foi. Vous voyez ça où? Nulle part. Nulle part. Repentez-vous et croyez en Jésus-Christ. La sola gratia nous garde dans une humilité totale. Aucun mérite chez nous. Aucun mérite chez nous. Et c'est vraiment important de comprendre ce que je viens de dire tout à l'heure dans cette notion de il ne faut pas attendre, il faut y aller, il ne faut pas avoir peur de faire faux. Ceux qui ont peur de faire faux ne progressent jamais. Prenez l'exemple des langues. On apprend une langue. Si vous avez peur de faire faux, vous ne parlerez pas. Donc vous n'apprendrez pas. Eh bien, dans la foi, on est dans la même notion. Nous sommes appelés à entrer. Nous ferons des fautes. La repentance que vous direz à Dieu, ben, elle sera encore entachée de péché. Puis alors, repentez-vous. Ce n'est pas votre repentance qui est le pilier de votre salut. C'est l'œuvre de Christ. Ouais, mais ma foi n'est peut-être pas assez. Attendez, c'est votre foi qui est le pilier de votre salut? Mais non, c'est l'œuvre de Christ qui l'a complètement, totalement accompli. Et si cette doctrine nous garde humbles, elle nous rend aussi très confiantes. Et c'est ce que j'appelle l'assurance de la grâce. Après la sainteté de la grâce, l'humilité de la grâce, l'assurance de la grâce de Dieu. Si c'est la grâce de Dieu seul, je n'ai pas à m'inquiéter de savoir si ma foi est grande ou petite, si elle est parfaite ou non. Mais non, je crois simplement parce que c'est Dieu qui me sauve. C'est lui qui a tout accompli. Plus besoin d'être paralysé par le passé. Dieu l'a pardonné. Le présent, il nous offre la vie présente et il nous assure un avenir. C'est ça le salut par grâce. J'aime vous donner quelques textes de la parole de Dieu qui nous stimuleront, qui nous montreront cette grâce, ce pardon de Dieu. Colossiens 1, 21-22. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saints, sans défaut et sans reproche. Il n'est pas dit, alors si votre foi est parfaite et que vous êtes repenti et que c'est bien fait dans les... Non, non. Pas écrit ça. Il vous a maintenant réconcilié par la mort dans le corps de sa chair, par la mort de Christ. Romains 5, 10. Car si lorsque nous étions ennemis, il n'y a encore même pas la repentance et la foi, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à bien plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par la vie. Là, il y a même encore une étape supplémentaire, c'est dans cette notion de l'assurance pour l'avenir. Si en plus, s'il l'a fait pour nous sauver, pour nous faire passer de la mort à la vie, mais il va continuer à le faire pour notre vie entière, et même pour l'éternité. Ça, c'est Romains 5, 10. Si parfois vous demandez, mais est-ce que Dieu vraiment m'a sauvé, prend soin de moi, ben relisez Romains 5, 10. Avant même, alors que nous étions encore pécheurs, il est mort pour nous. Il a accompli le salut. Éphésiens 2, 8 et 9, que vous avez devant vous, c'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Un don. Si je dois faire quelque chose pour le recevoir, ce n'est plus un don. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Un dernier texte, dans 1 Jean 4, versets 9 et 10. Voici comment l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non pas en ce que nous ayons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Vous voyez, c'est très clair dans ce texte. Il n'agit pas pour notre salut parce qu'on l'a aimé. Il agit pour notre salut parce qu'il nous a aimés. On a un salut qui est juste extrêmement solide. C'est Dieu qui l'a accompli. Mon assurance est basée sur le fait que Dieu est l'auteur de mon salut. C'est ça mon assurance. Dieu est l'auteur de mon salut. J'y crois et cela me suffit. Ma grâce te suffit, ça vous dit peut-être quelque chose. J'y crois et cela me suffit. Mais il y a encore un autre élément. C'est que j'ai plus d'assurance pour annoncer l'Évangile. J'ai plus d'assurance pour annoncer l'Évangile parce que je ne viens pas mettre un poids sur celui à qui j'annonce le salut. Hein, de quelque chose qu'il devrait faire. Fais ceci, fais cela, sinon... Non. Donc j'ai de l'assurance pour annoncer l'Évangile car je ne viens pas pour mettre un poids sur celui à qui j'annonce le salut. Il suffit de saisir par la foi la grâce de Dieu. Vous savez, pendant des années, Luther a lutté. Il a cherché à activer la grâce en lui. Lui, il croyait que la grâce était une aide que Dieu donnait. Donc, il recevait cette grâce de Dieu comme une aide pour pouvoir acquérir le salut. Puis, il se faisait pénitence, il se flagellait. Enfin, je ne vais pas tout expliquer tout ce qu'il a fait. Il a fait un tas de choses. Il a même monté à Rome, là, sur les marches, l'escalier, sur les genoux, enfin, tout ça. Et... il ne savait jamais si c'était assez. Est-ce que c'est assez? Jusqu'au jour où il a compris que le salut était l'œuvre de Dieu seul et qu'il pouvait simplement y placer sa foi. C'est ça la grâce de Dieu. C'est ça le sola gratia. C'est par la grâce seule. Et sa vie fut totalement transformée. Il n'était plus en train de dire « Est-ce que Dieu veut m'accepter ?» Mais c'est paralysant. C'est horrible. Est-ce que Dieu va vraiment m'accepter? Alors, on est toujours tout le temps en train de penser à ça, puis on n'est plus en train de vivre notre vie libérée, en fait. Sola gratia nous permet d'être tranquilles pour notre salut. Et nous donne d'être humbles face à ceux qui n'ont encore pas saisi le salut. Nous ne sommes pas mieux, mais nous bénéficions de la grâce de Dieu. Et ce que nous désirons, c'est que les autres en bénéficient aussi. La grâce de Dieu, c'est pour la vie. C'est même le titre d'un livre que je vous recommande, de Jerry Bridges. Hein. La grâce de Dieu, c'est pour la vie. Non seulement il nous sauve par grâce, mais il nous fait aussi vivre par grâce et il nous donne tout par grâce. Et chaque jour de vos vies, lorsque vous êtes dans une situation difficile, une situation même dans les relations difficiles, qu'est-ce qui va vous aider à avancer ? La grâce de Dieu. Je vais la chercher. Je vais même pouvoir, moi, la transmettre à d'autres. Parce que Dieu, non seulement nous la donne, mais nous permet de la transmettre à d'autres. Dans le sens que si quelqu'un nous fait du tort, je peux lui faire grâce, comme Dieu m'a fait grâce. En conclusion, j'aimerais simplement vous lire un chant qui est devenu célèbre, qui était écrit par un pécheur notoire, vautré dans le péché, qui a même fait du commerce d'esclaves. John Newton, puisqu'il s'agit de lui, ne pouvait être qu'émerveillé et reconnaissant en pensant à la grâce de Dieu envers lui. S'il devait décrire ses péchés, c'est juste assez horrible ce qu'il a vécu. Mais il a été sauvé par Dieu. Et il a écrit un chant en se souvenant de l'œuvre de Dieu. Un chant que vous avez déjà entendu peut-être, ou en tout cas le titre, qui s'appelle Amazing Grace. Donc une grâce, amazing, c'est difficile à traduire, hein, étonnante, extraordinaire, incroyable, qui exprime la reconnaissance qui découle de la grâce. On a vu la sainteté de la grâce, nous avons vu l'humilité de la grâce, nous avons vu l'assurance de la grâce. Et je pense qu'on peut ajouter la reconnaissance de la grâce. Et voici ce qu'il dit. Grâce prodigieuse, étonnante, incroyable. Quel doux son qui a sauvé un misérable tel que moi. J'étais perdu, mais maintenant je suis trouvé. J'étais aveugle, mais maintenant je vois. C'est la grâce qui a appris mon cœur à craindre, mais c'est aussi la grâce qui a soulagé mes craintes. Combien précieuse cette grâce qui est apparue à l'heure où pour la première fois j'ai pu croire. À travers beaucoup de périls, de labeurs, de pièges, j'ai déjà passé. C'était la grâce qui m'a gardé en sécurité jusqu'au moment présent, et la grâce me conduira chez moi. Et lorsque nous aurons été là pendant 10 000 ans, brillant comme le soleil, nous n'aurons pas moins de jours devant nous pour chanter les louanges de Dieu que lorsque nous aurons commencé. C'est la grâce de Dieu. Un homme qui, quelque part, aurait pu dire « Personne ne peut pardonner mes péchés ». A pu écrire ce chant parce qu'il a saisi la grâce de Dieu. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, ta grâce dépasse notre compréhension. Et plus j'entre dans cette notion et plus j'ai l'impression que c'est difficile de l'expliquer, mais nous voulons, Seigneur, saisir qu'elle est juste extraordinaire, qu'elle dépasse notre imagination, qu'elle est gratuite. Il n'y a aucune œuvre, aucun mérite, rien du tout que tu nous demandes parce que nous ne pourrions même pas le donner. Seigneur, merci parce que cette grâce nous permet de nous approcher de toi sans avoir peur. Nous pouvons dire tel que je suis, sans rien à moi, je viens à toi. C'est vrai, Seigneur. C'est en comptant sur l'œuvre de Christ, qui est celui qui a payé la dette, qui a ouvert le chemin de grâce, qui a pris la colère sur lui, qui a pris le jugement sur lui, qui reposait sur moi. Oh, merci Père de me donner cette grâce, de le saisir par la foi. Et j'aimerais te prier que chacun ici présent, nous puissions le saisir. Que cela puisse faire réellement une différence dans nos vies. Que nous puissions déjà être totalement libérés de nos péchés, nos consciences purifiées. Tranquille, sans peur, lorsque nous pensons à toi, lorsque nous savons qu'il y aura un jour de jugement. Mais nous avons confiance parce que ce jugement est déjà tombé sur notre Sauveur et nous avons reçu ta grâce. Et non seulement nous, en pensant à l'avenir, mais en vivant déjà aussi dans le présent. Ta grâce nous aide à accepter aussi parfois les situations difficiles parce que nous savons que tu veux nous former. Nous savons que tu as un plan beaucoup plus vaste que nos façons de penser. Et Seigneur, ta grâce nous aide à avoir totalement confiance en toi. Un Dieu qui fait grâce de cette manière-là ne va pas faire de mal à ceux à qui il fait grâce. Seigneur, nous ne comprenons pas tout dans nos vies. Eh bien, fais-nous la grâce d'entrer dans cette confiance, dans cette paix, dans cet encouragement. Oh Seigneur, combien de fois j'ai déjà été encouragé par des gens qui passent par la souffrance, par des temps difficiles, Et c'est eux-mêmes qui manifestent une plus grande grâce encore. C'est quelque chose qui nous dépasse, Père, parce que ça vient de toi. Eh bien, nous voulons te louer, nous te prions de nous donner aussi cette ardeur de partager cette grâce autour de nous. Cette bonne nouvelle qu'il n'y a pas besoin de chercher à atteindre le salut. Nous n'en avons pas la capacité. Mais nous pouvons le saisir et le vivre en Jésus-Christ. Ô Seigneur, sois loué, béni, et que cette notion de la sola gratia, la grâce seule, soit pour nous un sujet de joie, de reconnaissance, de développement d'amour pour toi, qui a tout accompli, alors que nous ne méritions rien, ou que nous méritions plutôt le châtiment éternel. Mais par amour, tu es venu en Jésus-Christ pour nous délivrer et nous accorder ta grâce. Oh, sois loué et béni dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.